Bonjour à tous, bienvenue pour cette première restructuration du cours d'analyse et calcul scientifique sur les espaces de Banach et de Hilbert. Je commence par le message principal qui sont que les propriétés des objets en dimension infinie sont très différentes potentiellement des propriétés des objets en dimension finie. Et dans ce cours en particulier, nous avons vu trois choses à ce sujet. La première chose, c'est que toutes les normes ne sont pas équivalentes. La deuxième chose, c'est que tous les sous-espaces vectoriels ne sont pas fermés. Et la troisième chose, c'est que toutes les applications linéaires ne sont pas continues. Je vous incite à mettre cette vidéo sur pause l'espace de quelques secondes, le temps de trouver un contre-exemple pour chacune des affirmations ci-dessus. Alors, voici des éléments de réponse suggérés. Pour les normes, un premier exemple, c'est la non-équivalence entre la norme petit L1 et la norme petit L infini sur l'espace des suites petit L1. Mais on pourrait aussi songer à la non-équivalence de la norme L1 et de la norme C0 pour deux fonctions sur un intervalle borné. Donc en particulier, ce qui est vrai, c'est que la norme petit L1 va être contrôlée par la norme petit C0, mais la réciproque sera fausse. Donc on a cette inégalité-là qui montre que la norme C0 est plus fine que la norme L1, mais le contraire n'est pas vrai. Pour les sous-espaces vectoriels non fermés, l'exemple typique que l'on peut considérer, c'est des suites avec un nombre fini de termes. Donc j'ai ajouté une remarque dans le poly à ce sujet. Et on peut voir en particulier que si vous prenez une suite, donc une suite d'un nombre fini de termes, c'est quelque chose de la forme U0, U1, etc., U petit n, et ensuite que des zéros. Donc si vous considérez une telle suite, en fait, quand on va prendre sa fermeture par petit L2, on va retrouver des suites qui n'ont pas nécessairement de termes nuls. Et en particulier, par exemple, si vous considérez la suite 1 demi, 1 sur 4, 1 sur 8, etc., avec les 1 sur 2 puissance n, vous pouvez approcher cette suite-là par une suite finie en tronquant à partir d'un certain rang petit n, donc ça serait ma suite un petit n, et on peut vérifier que un converge dans L2 vers la suite de termes génériques 1 sur 2 puissance i. Ça ne pose aucun problème, et donc on voit comme ça que le sous-espace vectoriel des suites n'ayant qu'un nombre fini de composantes non nulles n'est pas un sous-espace vectoriel fermé pour la norme petit L2. Un autre exemple qui est dans le polycopier de cours, c'est celui-là, c'est le fait que les fonctions C1 ne forment pas un sous-espace vectoriel fermé des fonctions continues lorsqu'on munit tout ça de la norme C0. Donc un troisième point, c'est le fait que les applications linéaires ne sont pas continues. Donc là, il y a évidemment un exemple un peu abstrait qui est de dire que l'application identité n'est pas continue lorsqu'on prend des normes non équivalentes. Un exemple peut-être un petit peu plus concret serait celui-ci. Je vais prendre des fonctions qui sont définies sur l'intervalle 0, 1. Puis je vais regarder la valeur de la fonction au point 1,5. Voilà. Donc si je munis tout ça d'une norme L1, je peux considérer des fonctions de ce type-là. Donc des fonctions qui vont à la valeur 1 au point 1,5. Et qui font ça sur un intervalle tout petit. Ici, là, j'aurai le point 1,5 moins 1 sur n. Et ici, j'aurai le point 1,5 plus 1 sur n. Donc une telle fonction, en fait, sa norme, donc si j'appelle cette fn, cette fonction, sa norme L1 sera égale à quoi? À l'aire du triangle. Donc du coup, ça va être 1 sur n. Et donc, il tend bien vers 0 dans la norme L1. En revanche, je vais avoir que fn de 1,5 est égal à 1 pour tout n. Donc là, vous voyez que l'application qui a une fonction associe sa valeur au point 1,5, ici, n'est pas continue pour la norme L1. Voilà. Donc c'est toujours extrêmement important de bien préciser les normes sur des espaces avec lesquels on travaille. Donc comme ces exemples ont montré, les espaces typiques auxquels il faut penser sont les espaces LP et les espaces de fonctions CK. Et ça suffit souvent à trouver des contre-exemples ou des exemples non triviaux pour les différentes assertions de choses qui se passent ou qui ne se passent pas en dimension infinie. Alors, pour ce qui est de trouver, de montrer que quelque chose est une norme, donc sur ces espaces de dimension infinie, je vous rappelle qu'il y a trois axiomes pour les normes. Et en fait, ce qui est le plus délicat à vérifier pour les normes, c'est éventuellement le caractère défini. Donc ça, c'était dans l'exercice où il s'agissait de montrer que L1 était une norme. Il y avait un petit travail à faire pour montrer que si l'intégrale de valeur absolue de la fonction est nulle, alors la fonction est effectivement nulle, quand on parle d'une fonction continue. Et des fois, c'est l'inégalité triangulaire qui est plus difficile à montrer. Et là, l'exemple typique, c'était quand on a travaillé sur les espaces de suite petit LP qu'il fallait utiliser l'inégalité de Minkowski. Alors, à présent, notion suivante, la complétude des espaces. Donc, quand on travaille avec des espaces de dimension infinie, on n'a pas forcément une bonne intuition sur l'ensemble des éléments de cet espace. Et du coup, on ne connaît pas toujours forcément les limites de suite. Et c'est pas forcément. On a besoin de quelque chose qui généralise les notions de limites. Et du coup, c'est bien à ça que servent les suites de Cauchy. Donc, les suites de Cauchy, la définition est extrêmement importante. Donc, il faut vraiment la connaître par cœur, sans hésiter. Donc, la première chose qu'on fait, on commence par se fixer un epsilon strictement positif. À partir de là, on a un rang n. Un rang n à partir duquel les deux éléments de la suite vont être uniformément proches l'un de l'autre. Voilà, donc ça c'est la définition de la notion de suite de Cauchy, et c'est pas parce qu'on a une suite de Cauchy que cette suite est convergente. En revanche, les suites de Cauchy ont un certain nombre de propriétés. Donc la première chose, c'est que les suites de Cauchy sont bornées. Donc ça se voit en prenant dans ma définition epsilon égale à 1. La deuxième chose, c'est qu'une série convergente est une série de Cauchy. Donc ça, c'est bien la suite de Cauchy. C'est bien quelque chose qui généralise la notion de suite convergente. Et du coup, ce qu'on a vu aussi aujourd'hui dans un exercice, c'est qu'une série normalement convergente est de Cauchy. Ça, c'est toujours vrai. Après, est-ce que cette série converge ou pas? Ça dépend si l'espace est un espace complet pour la norme. Donc, justement, venons à ces... Quel est le lien entre suite de Cauchy et convergence? Donc, la première chose, c'est que toute suite de Cauchy ne converge pas nécessairement dans V. Donc ça, c'est vraiment une affirmation qui est extrêmement importante et qu'il faut avoir en tête. Et du coup, c'est vraiment ce qui est important, c'est que le fait que ce soit dans V. Donc, vous avez deux contre-exemples dans le cours, lesquels? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Le premier exemple, c'est celui qui est donné par la remarque 1.1. Où on a des suites de fonctions C1 qui ressemblent à ça et qui, à la limite, vont converger vers une fonction qui va être juste continue, mais pas C1, qui sera avec, parce qu'en fait, elle a une singularité pour la dérivée en 0. Donc là, on a une suite de Cauchy pour un ensemble de fonctions qui sont de Cauchy pour la norme C0. Les fonctions sont C1 et du coup, donc c'est une suite de fonctions C1, mais qui ne converge pas vers une fonction C1. Ça, c'était un exemple. Et puis, il y a des exemples aussi avec, je vais le tracer au-dessus, des fonctions comme ça qui sont continues, qu'on considère pour la norme L1. Et du coup, ces fonctions-là vont converger à la limite vers une fonction créneau qui ne sera pas une fonction continue. Donc, typiquement, ce qui se passe pour les suites de Cauchy, c'est qu'elles convergent dans un... On ne sait pas si elles convergent dans l'espace, mais elles convergent dans un espace plus gros. Mais nous, on travaille dans un espace V. Et donc, la notion de complétude, ça va être vraiment ça. Ça va être de dire que notre espace est suffisamment gros si tout de suite de Cauchy converge dans cet espace. Et donc, c'est ça la notion de complétude. Donc, on peut à présent définir les espaces de Banach, qui sont les espaces vectoriels munis d'une norme et qui sont complets pour cette norme. Donc, attention, je rappelle, comme les normes ne sont pas équivalentes en dimension infinie, on peut être complet pour une norme et pas pour une autre. Ce qui est important, c'est de savoir caractériser, prouver qu'un espace est un espace de Banach. Donc, montrer que c'est un espace vectoriel normé, ça, généralement, c'est assez facile. Et ce qui est difficile, c'est vraiment la complétude. Donc, c'est là que le travail est intéressant. Et il y a deux options. On a vu deux options dans les exercices du cours. Première option, j'allais dire un peu à la main, on va montrer que toute suite de Cauchy converge. Donc, on introduit une suite de Cauchy, on va montrer qu'elle a une limite et on va montrer que cette limite est en bon espace. Et on a vu ce matin une caractérisation alternative par les séries, qui est qu'on a un espace et de Banach si et seulement si toute série normalement convergente est convergente. Et je rappelle que normalement convergent, ça veut dire que la série des normes converge. Bon, la série des normes pour la norme V. Donc pour l'option à la main, qu'est-ce qu'il s'agit de faire? Donc on a vu ça dans deux exercices, l'exercice sur la complétude de LP et sur la complétude de C0. À chaque fois, c'était la même procédure. Première chose, on construit une limite candidate. Et donc ça, c'est souvent quelque chose qui se fait point par point. Donc pour les séries, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait les premiers termes, on montrait que la suite des premiers termes était une suite de Cauchy dans R, on construisait le premier élément d'une limite, puis la suite des deuxièmes termes, des troisièmes termes, etc. Pour les fonctions continues, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on a travaillé avec plusieurs fonctions, puis en fait, on a pris en un x donné, à chaque fois, on a construit la limite de un, de la suite un de x, on a construit point x par x, une limite u de x. Donc ça, c'est cette première étape, limite candidate. Ensuite, on vérifie que la limite, elle est dans le bon espace. Ça veut dire, par exemple, pour les fonctions continues, on vérifie que la fonction limite est bien continue. Et ensuite, on vérifie que toute la suite converge bien vers cette limite. Souvent, cette dernière étape est l'étape facile, je vais dire, parce que ça revient généralement à écrire la définition de ce que c'est qu'une suite de Cauchy et à faire une limite P tend vers plus l'infini dans la définition de ce qu'est une suite de Cauchy. Donc, si vous ne voyez pas ce que je veux dire, on va revenir au transparent précédent. Et ça veut dire que je pars d'une inégalité comme ça. Ici, je fais P tend vers plus l'infini. Et typiquement, je vais converger vers l'élément, vers la limite candidate U que j'ai définie, que j'ai réussi à construire. Voilà. Et donc, après une remarque un petit peu, métaphysique par ici, qui est que les espaces de Banach sont sans trous. Ça veut dire que c'est vraiment la complétion d'un espace qu'on ne connaît pas par toutes les limites possibles. Et cette complétion, c'est bien l'espace lui-même, parce que si je suis complet, toutes mes limites de suite convergentes sont dans mon espace. Alors, les espaces de Hilbert, ce sont des espaces de Banach pour lesquels on a un produit scalaire. Et l'intérêt, c'est que ça nous donne des éléments de géométrie en plus. Donc, quand je dis géométrie, c'est un théorème type théorème de Pythagore, que dans le cours, on a vu comme théorème de la projection orthogonale. Quand j'ai un élément U ici, je peux discuter de sa projection orthogonale, et puis j'ai des notions d'orthogonalité par rapport à la projection orthogonale et par rapport à d'autres éléments d'un sous-espace vectoriel sur lequel je projette. Alors attention, pour appliquer ce théorème de projection orthogonale, j'ai besoin de travailler sur un sous-espace vectoriel qui est fermé, de manière à définir cet objet limite pk de U. Donc là, j'ai ajouté aussi dans le poly un exemple. Donc quand je travaille sur le sous-espace qui est composé des suites qui n'ont qu'un nombre fini de termes non nuls, donc celui qu'on a appelé avant, donc si je me place sur petit L2 et K, je prends les suites avec un nombre fini de termes non nuls. Et donc si je fais ça, si je considère cet espace, je ne peux pas définir la projection de U. Pourquoi ? Parce que l'inf sur pour les V appartenant à K de U moins V en un petit L2, c'est toujours 0. Et donc ça dit que si j'avais une projection orthogonale, nécessairement ce serait U lui-même. Maintenant, si l'élément que je considère n'a pas un nombre infini de termes non nuls, du coup je ne peux pas le projeter sur l'ensemble des suites avec un nombre fini de termes non nuls. Voilà, donc je vous incite à vraiment réfléchir au fait qu'il est important que le sous-espace vectoriel soit fermé pour qu'on puisse parler de la projection orthogonale. Et évidemment, il faut être sur un espace de Hilbert parce que la preuve du terme de projection orthogonale repose sur des principes de complétude. Alors, le cas typique à retenir et qu'on verra la semaine prochaine, c'est qu'une projection orthogonale, on peut y songer comme une décomposition comme ça sur une base de l'espace sur lequel on projette. Ici, je vous l'ai fait avec une projection sur un sous-espace de dimension finie. Mais en fait, la beauté des choses, c'est qu'ici, on peut travailler avec un sous-espace vectoriel de dimension infinie. Par exemple, on va pouvoir projeter des suites petit L2 sur l'espace des composantes paires. Ça veut dire sur des suites qui seront de la forme U0, 0, U2, 0, etc. On ne retient donc que les composantes paires. Donc ça, c'est les choses qu'on verra la semaine prochaine, comme on verra la notion de base hilbertienne. Alors, pour finir, juste un petit élément d'organisation. Donc, on a des office hours le vendredi à 15h15. Souvent, mais pas toujours, c'est en salle F102, donc vérifiez avant. Donc, cette semaine, il n'y aura pas de TPA d'informatique en parallèle. Donc, vous pourrez venir poser plein de questions. Et je vous incite vraiment à venir avec des questions préparées, soit sur le cours à lire, soit sur l'exercice des semaines d'avant. Donc, si vous regardez cette vidéo, je n'ai pas besoin de vous dire qu'il y a des vidéos d'exercices et d'amphi, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et sur les questionnaires d'auto-évaluation, un petit mot. Donc, c'est bien d'y répondre la veille au soir, au plus tard, pour savoir si vous avez bien lu le cours suffisamment. Ça vous aidera aussi à préparer les quiz. Et je répète que je ne donne pas et je ne donnerai pas de correction immédiate des questionnaires d'auto-évaluation au moment où vous le remplissez, parce que certaines questions sont formulées de manière un peu délicate ou ambiguë. Et pour moi, c'est plus l'occasion de discuter avec l'enseignant des réponses aux questions plutôt que d'avoir une version un peu binaire. Oui, j'ai bien répondu. Non, j'ai mal répondu. Donc, c'est vraiment pour soulever les interrogations et susciter des discussions de couloir sur les mathématiques plutôt que d'avoir une réponse définie. Voilà. Merci pour votre attention et à la prochaine restructuration.